8h, voici le journal de Sébastien Logénie. Bonjour.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, les pratiques contestables de la police et de la gendarmerie contre les migrants de Calais. C'est le résultat d'un rapport du gouvernement lui-même. Pas d'accusation lourde, mais des abus pointés du doigt. Les détails dans un instant. Une visite officielle très controversée en perspective. Le président égyptien, le général Sissi, est en France pour 3 jours. Paris voit un rempart contre le terrorisme. Les ONG, l'un des pires régimes de la planète quant au respect des droits de l'homme. Un premier pas franchi vers une Europe plus protectrice. C'est en tout cas l'analyse des autorités françaises qui ne boutent pas leur plaisir. Paris a décroché hier une réforme du statut très sensible des travailleurs détachés. Petit bémol à cet accord, les routiers en sont exclus. Une déception que l'on entendra et sur laquelle on reviendra, Marc, avec votre invitée, la ministre des Transports, Elisabeth Borne.
Oui, invitée à 8h20, elle nous donnera sa première réaction à cet accord. Cette nuit, donc, à Luxembourg, on parlera du TGV, des TER. Faut-il s'attendre à des fermetures de lignes, des fermetures de gares également dans les années qui viennent? On attend vos questions, vos témoignages également sur votre façon de vous déplacer aujourd'hui en France. 01 45 24 7000.
Au programme également, chronique d'une exclusion annoncée au parti Les Républicains. C'est ce soir l'épilogue. De plus en plus de femmes harcelées qui appelle les plateformes téléphoniques depuis l'affaire Weinstein. Zinedine Zidane, sacré meilleur entraîneur européen, et Christian Dior à l'honneur d'une exposition qui fait un record d'entrée à Paris.
France Inter.
La jungle de Calais a disparu, mais les pratiques des forces de l'ordre, elles, semblent avoir survécu. Un an après le démantèlement de cet immense bidonville, un rapport officiel pointe donc certains excès de la police. Et ce n'est pas un rapport des ONG, mais de l'administration elle-même, en particulier de l'IGPN, la police des polices. Il avait été commandé, ce rapport, après les lourdes accusations portées cet été par Human Rights Watch, qui accusait notamment les CRS d'utiliser du gaz au poivre contre les migrants. Au final, le rapport écarte les critiques les plus sévères, mais estime plausibles certains abus. Géraldine Allot.
Les forces de l'ordre n'utilisent pas de gaz poivre contre les migrants, écrit la mission d'inspection. Elle étaye peu son propos. Elle indique juste qu'en France, les policiers et les gendarmes ne sont pas équipés en gaz poivre et que son utilisation est donc hautement improbable. En revanche, les inspecteurs relèvent des manquements plausibles. Ils évoquent des faits de violence, d'usage disproportionné de gaz lacrymogène et de destruction d'affaires appartenant aux migrants. Pour arriver à ces conclusions, les inspecteurs ont notamment visionné des photos, des vidéos. Ils ont écouté des enregistrements audio fournis par les associations. Les témoignages sur les violences de la police et de la gendarmerie ont été nombreux, relève la mission d'inspection. Mais il y a eu très peu de plaintes déposées pour des Afghans, des Érythréens ou des Éthiopiens. Il est culturellement inconcevable de déposer plainte contre la police, écrivent les inspecteurs. Enfin, la mission propose des mesures pour faire baisser la tension à Calais, notamment l'utilisation de caméras piétons par les forces de l'ordre pour filmer leurs interventions.
Géraldine Allot a noté qu'un an après l'opération de démantèlement, sur l'ensemble des 7400 migrants évacués, 42% d'entre eux ont obtenu le statut de réfugié ou une protection subsidiaire, un statut un peu moins protecteur.
La suite du journal, victoire indéniable cette nuit pour Emmanuel Macron, c'est sans doute sa première sur le front européen.
Oui, après plus de 11 heures de discussion, les 28 ont réussi à trouver un accord sur la réforme du statut des travailleurs détachés. Une priorité pour l'Élysée, 3 points à retenir. Une durée de détachement maximum de 12 mois, comme le souhaitait Paris, mais avec 6 mois renouvelables. Les travailleurs détachés toucheront leur salaire de base, plus les primes. Et le secteur des routiers, qui s'inquiétait d'être affecté par cette réforme, est exclu de l'accord. Le dossier repoussé à plus tard, on en reparle dans un instant. L'Élysée, bien sûr, voit dans cet accord une étape essentielle. La preuve que l'Europe peut aussi être protectrice. Écoutez l'autosatisfecit de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail au Luxembourg.
C'est un grand pas vers l'Europe sociale, la refondation de l'Europe, incluant sa dimension sociale, que le président de la République a souhaité, sur laquelle il s'est engagé. Une des grandes satisfactions de ce soir, c'est qu'il n'y a pas de fracture Est-Ouest. Quand vous regardez les votes, il n'y a pas de fracture géographique. Il y a d'abord une majorité très large, dans ce sens-là, et aussi bien avec des pays de l'Est que de l'Ouest. Je pense que ce que j'ai senti aujourd'hui, au fur et à mesure des 12 heures de négociation, c'est que oui, il pouvait y avoir une convergence forte vers le fait que l'Europe doit permettre un libre marché, mais elle doit aussi protéger ses salariés et amener une concurrence équitable.
Muriel Pénicaud au micro de Quentin Dickinson. Alors il y a des bémols à cet accord, il ne sera applicable que dans 4 ans et surtout, je vous le disais, la nouvelle directive ne s'appliquera pas au transport routier, pourtant très concerné. En clair, pour les entreprises de transport françaises, le problème reste entier. Au grand regret d'Olivier Etève, secrétaire général adjoint de l'Union Fédérale Route, FGTE-CFDT.
Nous le regrettons amèrement, puisqu'on a demandé depuis longtemps un renforcement de cette directive européenne, tout simplement parce que les enjeux sont importants. Les enjeux, les entreprises aujourd'hui, pour essayer d'écraser les prix, ont recours à ces travailleurs détachés, parce qu'ils sont payés dans leur pays. Alors on peut parler des pires, c'est la Bulgarie. Ils ont payé autour de 200 euros par mois. Si vous rapportez ça à un conducteur français, la différence est énorme. On a demandé à travail égal, salaire égal. On a demandé aussi que les entreprises de ces pays-là payent leurs cotisations sociales en France. Mmh. Là, on est quand même dans le cadre d'un dumping social et d'une concurrence déloyale pour les métiers de conducteurs en France. Et cette directive reste aujourd'hui complètement insuffisante. On n'est même pas à la moitié du chemin, on peut dire ça comme ça.
Olivier Etève au micro de Frédéric Carbone. Une victoire diplomatique donc pour l'Élysée. L'exécutif qui reste malgré tout plombé dans les sondages, plombé par l'étiquette de président des riches. 80% des Français estiment en effet que les grandes fortunes et les chefs d'entreprise sont les grands gagnants de la politique fiscale d'Emmanuel Macron. Résultat d'un sondage Odoxa à paraître aujourd'hui. À noter aussi qu'en dépit de l'interview télé du chef de l'État, les sondages de popularité sont stables, mais ils restent toujours mauvais. Une majorité de Français, 56%, continuent de penser que le président n'est pas un bon président. Même chose pour le Premier ministre. L'enquête Odoxa retrouvée en détail sur le site d'InterFranceInter.fr. Et ce n'est pas le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale que le président, ce n'est pas avec ce projet de loi en tout cas que le président va facilement se refaire une santé. Un projet qui va commencer à être examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il s'agit de réduire le déficit de 3 milliards d'euros, notamment grâce à des économies demandées aux hôpitaux. La grogne sociale, elle, marque le pas après le flop de la manifestation de la CGT le 19 octobre dernier. Toutes les centrales syndicales se réunissent à nouveau aujourd'hui, mais cette fois au siège de la CFDT, où les syndicats vont à nouveau tenter d'organiser une journée d'action commune.
8h07 sur France Inter. Autre réunion ce soir, bureau politique au parti Les Républicains. C'est peut-être l'épilogue du psychodrame qui agite le parti depuis des mois.
Exclure ou ne pas exclure, telle était la question. La réponse est désormais tranchée. Ce sera l'exclusion pour les Macron compatibles. Estelle Schmitt.
Cette fois, c'est sûr, on passe à l'acte, s'enthousiasme un membre du bureau politique pour qui les tergiversations du parti n'ont que trop duré. On se ridiculise depuis cet été avec ce sketch, analyse une députée. Pourquoi ne pas avoir assumé tout de suite une décision qu'on prendra de toute façon ce soir, interroge-t-elle. C'est que Bernard Accoyer, le secrétaire général des LR, voulait respecter la procédure et permettre à ceux qui voulaient s'expliquer d'être entendus par le parti. Ce soir, ce sera chose faite et sauf surprise de dernière minute, le bureau politique devrait acter des départs, formule choisie pour ne pas prononcer le mot exclusion, de quoi faire bondir tout de même certains jupéistes comme Dominique Bussereau. Ils boycottent la réunion de ce soir. Chez les principaux concernés, des réactions contrastées. Aucune pour Édouard Philippe. Le Premier ministre gouverne, explique son entourage. D'autres ont l'intention de saisir la commission de recours du parti s'ils étaient exclus. Pas question de se laisser virer sans faire de dégâts sur un constructif et on va leur pourrir la campagne pour la présidence du parti, promet un autre.
Estelle Schmitt du service politique de France Inter. C'est un allié encombrant mais incontournable que Paris accueille aujourd'hui sur son territoire. Le général Sissi est en visite officielle pour 3 jours. Au menu, lutte contre le terrorisme et vente d'armes. Première poignée de main ce midi avec un déjeuner en tête-à-tête entre le président égyptien et le président français. Un protocole plutôt discret comparé à la mise en scène royale consacrée à Vladimir Poutine et Donald Trump. Il faut dire que le général Sissi est à la tête du pays le plus répressif au monde en matière de droits de l'homme. L'Élysée a promis d'aborder le sujet, mais de loin. Claude Guibal.
Avec Abdel Fattah al-Sissi, la diplomatie française marche sur des œufs, car la dérive autoritaire de cet allié essentiel est bien embarrassante pour Paris. Face au bilan catastrophique des droits de l'homme dans le pays, la répression au nom de la lutte antiterroriste frappe l'ensemble de la société civile et l'opposition. Disparition forcée, torture, opposants muselés, l'Égypte de Sissi est, selon les ONG, aujourd'hui bien pire que celle de Moubarak. Un sujet qu'Emmanuel Macron entend aborder avec son invité, assure-t-on. Mais reste à savoir comment, tant il faut ménager le président égyptien Libyens. Paris a besoin de lui tout d'abord sur l'épineux terrain libyen. Cette Libye en proie au chaos où l'Égypte peut intervenir militairement pour soutenir notamment le général Haftar dans l'est du pays dans sa lutte contre les islamistes armés. Sur le front est, l'Égypte, c'est aussi la frontière avec Gaza, Israël et ce Sinaï en ébullition où sont implantés les djihadistes proches de l'État islamique. Alors pour la France, soutenir Sissi, c'est faire le pari de la stabilité coûte que coûte, une priorité face aux dangers djihadistes, alors que cette semaine encore, le pays pleure la mort de dizaines de policiers massacrés par les terroristes.
Claude Guibal. En bref, à l'étranger, une journée historique en Allemagne. L'extrême droite fait son entrée au Bundestag ce matin. Une centaine d'élus au cœur de la Chambre des députés, du jamais vu depuis 1945. En Chine, Xi Jinping, sur les traces de Mao, le président chinois entre dans la charte du Parti communiste à l'égal de l'ancien grand timonier. Et puis cette information du journal Le Monde, le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler est visé en France non seulement par une enquête pour tromperie sur ses moteurs diesel, mais aussi pour avoir fait obstacle aux enquêteurs français, un délit puni de plusieurs milliards d'euros et de 2 ans d'emprisonnement.
8h11 sur France Inter, la suite du journal de Sébastien Logénie et les suites de l'affaire Weinstein. Il n'y a pas que sur les réseaux sociaux que les femmes témoignent en nombre.
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à contacter les permanences téléphoniques des associations pour dénoncer des agressions ou des cas de harcèlement sexuel. Illustration locale de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Le reportage de Gaëlle Joly.
Depuis 10 jours, l'association fait face à un véritable raz-de-marée de mails et de coups de fil, entre 5 et 10 nouveaux cas par jour, contre 4 par semaine l'an dernier.
Puis les mécaniciens. Et pour vous, c'est un collègue, en fait.
Pour Laure Ignace, juriste à la permanence téléphonique, c'est du jamais vu.
Il y a eu quand même l'affaire Baupin, mais qui n'avait pas entraîné autant de réactions en chaîne que l'affaire Weinstein. On passe nos journées au téléphone. Rien que sur le mois d'octobre, on est à 225 appels dans le mois, alors qu'on est ouvert 3 heures par jour. Donc, c'est énorme.
Des témoignages toujours plus nombreux, de tout milieu social, dans la police, l'université, l'hôpital ou chez les militaires. Léa Scarpel, elle aussi, est juriste à la VF.
C'est des propos ou comportements à connotation sexuelle, c'est des attouchements sur les seins et les fesses, donc des agressions sexuelles, c'est des pénétrations digitales, donc du viol, c'est des images pornographiques affichées dans l'entreprise. Elle décrit vraiment tout type de violences sexuelles.
D'après les derniers chiffres de la chancellerie, pour 1000 plaintes de harcèlement sexuel déposées en un an, 93% ont été classées sans suite. Voilà pourquoi l'association demande aux employeurs de répondre à l'obligation légale de protéger leurs salariés. Impossible sans ça d'espérer mettre fin aux violences sexuelles au travail.
Alors, reportage de Gaëlle Joly. Attention, si vous habitez Nantes, la circulation des tramways et des bus sera très perturbée, voire nulle aujourd'hui, conséquence du ras-le-bol des conducteurs après plusieurs agressions contre des contrôleurs. Au contraire, les rues de Marseille peuvent enfin respirer. Fin de la grève des éboueurs de la société de Richebourg. Après 13 jours de conflit, le ramassage des poubelles a recommencé hier soir. Les salariés demandaient le maintien d'une prime. Ils ont eu gain de cause. Les Marseillais qui ont une autre raison de se réjouir aujourd'hui. Zinedine Zidane a été sacré hier meilleur entraîneur européen de l'année par la FIFA. Une récompense qui vient couronner 1 an et demi de succès à la tête du Real Madrid. Vincent Pellegrini.
Zinedine Zidane a pris les rênes du Real Madrid en janvier 2016, en remplacement de Rafael Benitez. Une nomination accueillie avec perplexité par certains. L'expérience de l'ancien capitaine des Bleus se résumait à un poste d'adjoint de Carlo Ancelotti et à l'encadrement de l'équipe réserve du Real. 6 mois plus tard, les sceptiques se sont tus. Zinedine Zidane et ses joueurs remportaient la 10e Ligue des Champions de l'histoire du club. Cette année, ils ont réussi un magnifique doublé, championnat d'Espagne et une nouvelle Ligue des Champions. Avant de se lancer dans sa seconde carrière, Zinedine Zidane avait suivi la formation de manager au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Son directeur, Jean-Pierre Caracchilo, n'est pas surpris par la réussite de son prestigieux élève.
C'est quelqu'un qui est extrêmement méthodique, extrêmement rigoureux, et qui dans tout ce qu'il fait est extrêmement professionnel. C'est quelqu'un qui est très fort sur le management parce qu'il aime les autres. Il aime les gens avec qui il travaille. Donc c'est quelqu'un qui a un cheminement extrêmement professionnel, quoi.
À 45 ans, Zinedine Zidane semble épanoui dans ses fonctions, beaucoup moins introverti que lorsqu'il était joueur. À Madrid, il est chez lui, un lien très fort unit Zidane et le Real. Mais il serait étonnant qu'à l'avenir, son nom ne soit pas évoqué pour diriger l'équipe de France.
Vincent Pellegrini.
On termine avec une exposition qui fait un carton en ce moment à Paris. Christian Dior, couturier du rêve.
Dior, mort il y a 60 ans, jour pour jour, l'un des plus grands couturiers français connus à travers le monde entier. Une exposition lui est donc consacré au musée des arts décoratifs de Paris. Toute sa vie y est retracée, de ses débuts de galeriste à la création de sa propre maison en 1947, la maison Dior. Le musée réalise des records d'entrée. Adrien Bossard.
Le décor est volontairement sombre. Les murs noirs ne sont éclairés que par de petits spots pour mieux mettre en valeur les 300 robes qui habillent les allées. Des robes dessinées par Christian Dior ou ses successeurs, Yves Saint Laurent en tête, et toutes portées lors des défilés.
On est accueillis par ce vêtement, le tailleur bar.
Le vêtement phare du style New Look, mouvement créé par Christian Dior. Une révolution dans la période d'après-guerre. Fini les épaulettes carrées, place à des formes plus féminines.
C'est très centré.
Très cintré, très bien.
Face à Michel Aubry, conférencière du musée, cinq jeunes filles en stage pour la semaine découvrent le point de départ du couturier Dior, un nom qui parle à Elena et Tara, deux lycéennes passionnées de mode.
C'est un peu le commencement de la mode en France.
Il a redonné l'envie de s'habiller bien, parce qu'avant, il n'y avait plus rien.
Dans les années 50, il devient vite incontournable, multiplie les couvertures de magazines. Christian Dior symbolise alors le renouveau de Paris, comme l'explique Olivier Gabet, directeur des musées des arts décoratifs.
Cette idée tout d'un coup d'un hymne à la joie et à la joie de vivre, il a été quand même pour beaucoup de créateurs ensuite, le point de repère autour duquel se placer sur l'échelle soit de la radicalité, soit de la mode à la française.
Et preuve qu'il reste indémodable, en à peine 4 mois, déjà plus de 400 000 visiteurs pour l'exposition, tout simplement un record de fréquentation pour le musée des arts décoratifs.
Christian Dior, couturier du rêve au musée des arts décoratifs de Paris, l'exposition dure jusqu'au 5 janvier. Le rêve continue avec vous, Marc Fauvel.
Oui, merci, c'était le journal de Sébastien Logeni.